Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Muratori-Philippe.
Pour ce magazine de Au fil des pages, je reçois aujourd'hui Simone Berthière qui vient de publier une magnifique biographie du cardinal de Mazarin aux éditions de Fallois. Elle est intitulée « Mazarin, le maître du jeu ». C'est tout un programme. Bonjour Simone Berthière.
Bonjour Anne et bonjour aux auditeurs, non aux lecteurs.
Aux auditeurs et aux lecteurs, les deux. Vous avez publié, il y a quelques années, 6 volumes qui relatent en détail la condition des reines de France. Vous avez beaucoup travaillé sur un autre cardinal, le cardinal de Retz, qui n'a pas été tendre, lui, avec Mazarin. Et aujourd'hui, vous consacrez près de 700 pages à la réhabilitation de celui que les mémorialistes de son temps appelaient le Gredin de Sicile. Pourquoi ?
Eh bien, j'avais une sorte de dette à l'égard de Mazarin, parce qu'en travaillant sur le cardinal de Retz, je m'étais bien rendu compte que les critiques visant le malheureux ministre d'Anne d'Autriche étaient très injustes. Je n'avais peut-être pas mesuré à quel point, d'ailleurs, elles étaient calomnieuses. Enfin, je savais qu'il y avait une pente à remonter et que Mazarin méritait beaucoup mieux que l'horrible réputation qu'il a laissée dans la mémoire collective des Français.
Alors, il y a déjà un courant historique qui a été amorcé par Georges de Tans, Claude Dulon et surtout Madame Laurin Portemer.
Oui, auquel il faut ajouter Pierre Goubert.
Voilà. Et vous êtes dans leur lignée ?
Ah, tout à fait. Je revendique même une dette importante à leur égard, parce que sans eux, je n'aurais évidemment pas pu écrire la présente biographie. Donc, je m'inscris dans une suite et je ne prétends pas donner le fin mot de tout ce qu'il faut savoir sur Mazarin. Et j'espère simplement être un maillon dans une chaîne de livres qui amènera à une réhabilitation complète et qui en rendra justice un jour, j'espère, à la grandeur de cet homme d'État tout à fait exceptionnel.
Votre biographie fait une large place aux années italiennes de Mazarin, période peu connue en France. Alors, qui est-il donc et que faisait-il avant d'apparaître dans le sillage de Richelieu ?
Oui, alors l'historiographie française a tendance à considérer que Mazarin a surgi d'un coup de baguette magique le jour où il s'est installé en France et qu'avant il n'y avait rien. C'est surtout grâce à Madame Laurin Portemer qu'on a découvert que sa vie antérieure était très riche d'événements. Il faut dire d'ailleurs qu'il n'est arrivé en France qu'à l'âge de 40 ans à peu près, enfin 38, et il était né en 1602, le 14 juillet. Et donc, il est arrivé en 1640 et il a pris le ministère en 1643. C'est un homme plein d'expérience qui s'installe en France. Il a été au service du pape pendant une bonne dizaine d'années. Alors, il est parti de rien. Sa famille n'était pas tirée de la lie du peuple, comme le dit Saint-Simon. Oui. Mais c'était une famille relativement modeste, aux franges de la toute petite noblesse, d'où sortait sa mère, par exemple. Et son père était domestique de haut niveau, c'est-à-dire qu'il faisait partie de la maison des Colonna, une très riche et très noble famille hispano-romaine. Et il jouait un rôle d'intendant, enfin, occupé à des besognes diverses. Mais il gagnait peu. Et avec un enfant tous les ans, la famille tirait le diable par la queue. Donc Mazarin est vraiment parti de très bas, si vous voulez. Rien ne le prédestinait à l'extraordinaire ascension qui fut la sienne. Alors, c'était un surdoué. On s'en est aperçu très vite.
Il est né coiffé.
Oui, il est né coiffé, c'est vrai, il est né coiffé, pour de bon. Un très bon présage. Et le jour de la Saint-Bonaventure, qui était également de très bon augure. Bon. On s'est aperçu qu'il était extraordinairement intelligent, et donc il a été poussé, un mécène a financé ses études, et on l'a mis au Collège romain, qui était le plus brillant établissement scolaire de Rome. Donc, il a fait d'excellentes études et grâce au Colonna, il a pu également se glisser dans les milieux artistiques. Donc, il a fréquenté les musiciens et les peintres dans la Rome des Barberini, qui était à ce moment-là un centre culturel prestigieux. Donc, culturellement, il est extrêmement poussé dès le début. Mais du point de vue carrière, quand on est romain et peu argenté, il n'y a qu'une solution, naturellement, c'est l'Église. Et il entre au service du pape par la petite porte, c'est-à-dire d'abord comme militaire, enfin dans le genre casque bleu, vous savez.
Oui,
le,
bon, soldat de la paix.
Force interposition dans une vallée alpestre contestée, mais il n'a pas l'occasion d'y aller parce que la question est réglée par les vrais militaires avant qu'il ait pu arriver sur place. Alors ensuite, il est secrétaire d'un cardinal et le cardinal l'abandonne à Milan parce qu'il a autre chose à faire et notre très modeste secrétaire continue de recueillir des renseignements et de rédiger des rapports. Et ces renseignements sont tellement riches et ces rapports tellement précis et intelligents qu'ils remontent jusqu'au pape Urbain VIII. Alors, Urbain VIII ne l'intégrera jamais à sa diplomatie. Il aurait fallu qu'il suivît le cursus normal d'un homme d'église. Et il ne veut pas. Il ne veut pas se faire prêtre. Je pense que la question des mœurs n'a aucune influence sur ce refus. Il ne veut pas être prêtre, à mon avis, parce qu'il déteste la routine, la répétition, la vie monotone. Il se sent un homme d'action et il veut être sur le terrain, là où il se passe des choses. Alors, dire la messe tous les jours, chanter complis, faire des sermons le dimanche, où il y a peu de variantes, vous l'accorderez, et confesser les bonnes dames, il n'en veut pas. Donc, le pape ne l'intègre pas à ses services. Il l'engage comme diplomate marginal, si vous voulez, auxiliaire, sans fonction précise. Et on l'utilise à des missions difficiles, et en cas d'échec, on peut le désavouer. Voilà. Donc, il fait un coup d'éclat en Italie, c'est-à-dire que, chargé par le pape de prévenir l'affrontement qui se prépare dans la plaine du Pô autour de la forteresse de Casale, eh bien, il parvient au dernier moment, après avoir navigué entre Autrichiens, Espagnols et Français pendant des mois, à arrêter les armées qui commencent déjà à se tirer dessus. Il se lance au milieu, à cheval, en agitant son chapeau et en criant « pace, pace » et il oblige les trois généraux à signer, sinon la paix, du moins une suspension d'armes. Alors, du coup, l'obscur secrétaire employé à des besognes parallèles devient célèbre dans toute l'Europe. Et comme, en plus, dans la foulée, il s'arrange pour arrimer très fortement la Savoie à l'Alliance française en obtenant que le duc de Savoie cède à Richelieu la forteresse de Pignerolles, alors là, il se brûle complètement. Comme agent secret, c'est fini, on ne peut plus compter sur lui. Il a à Rome des ennemis féroces, en particulier dans la Curie, parce que l'Espagne pèse très lourdement, ne serait-ce que par la proximité, sur la politique extérieure du Saint-Siège. Donc, il se réfugie en France. Mais c'est quelqu'un qui a déjà une expérience de diplomate et qui a montrer ses remarquables talents de négociateur.
Alors, comment Richelieu s'intéresse-t-il à lui ?
Richelieu l'a rencontré au cours des négociations concernant Casale. Richelieu, d'abord méfiant, a fini par comprendre qu'il travaillait pour la France. Et finalement, je pense qu'ils sont tombés d'accord sur la nécessité de mettre un frein aux ambitions hégémoniques de la maison de Habsbourg, qui tient à ce moment-là à la fois Madrid et Vienne.
Alors, que fait Richelieu ? Parce qu'il lui obtient quand même le chapeau de cardinal.
Ah ben, il faut bien lui donner un état, parce que le petit monseigneur Giulio ne peut pas se présenter à la cour de France s'il n'est pas quelqu'un. Donc, on arrache un chapeau de cardinal. À vrai dire, Urbain VIII était assez d'accord pour le donner. Mais il a monnayé ce chapeau contre le renvoi d'un ambassadeur qui l'encombrait. Peu importe. Mais ce que Richelieu prévoyait pour Mazarin, ça n'est pas du tout une carrière en France. Il voulait faire de lui le chef de ce qu'on appelait la faction française à Rome, c'est-à-dire le groupe de cardinaux qui, dans le Sacré Collège, défendaient les intérêts français.
Ouais. Alors, nous voilà donc avec Mazarin dans l'ombre de Richelieu. Et Mazarin, Richelieu va en faire son héritier. Comment Mazarin, avec le caractère qu'il a, la prestance, comment peut-il être apprécié par le roi Louis XIII, qui est un personnage quand même assez méfiant ?
Oui, Mazarin présente des quantités d'avantages. Il est à la fois aussi compétent que Richelieu, même peut-être plus compétent en matière de politique étrangère, donc il est irremplaçable dans ce domaine. Mais en même temps, il est aussi doux, aimable, prévenant que Richelieu était sec et cassant. Et Mazarin, non seulement il est séduisant, il était très bel homme, mais il est doté d'une pénétration psychologique tout à fait remarquable et d'une attention aux autres. C'est-à-dire qu'il part du point de vue des autres. Il essaye de les comprendre et petit à petit, il parvient à les amener à ses propres conclusions, mais par un chemin tout à fait naturel. Ils ont l'illusion d'avoir compris tout seuls et décidé eux-mêmes. Et auprès de Louis XIII, après le drame de la conspiration de Saint-Marc, il a joué vraiment le rôle d'un psychologue, d'un psychothérapeute même. Voilà. Et Louis XIII, alors, le propulse au Finistère, juste après la mort de Richelieu en décembre 1642.
Oui, mais Louis XIII va encore plus loin. Il en fait le parrain du dauphin.
Oui, mais...
C'est incroyable,
mais Louis XIII n'a personne autour de lui. Il se défie, à juste titre, de son frère, qui n'a pas cessé de soutenir les conspirations contre lui. Bon, sa femme, il s'en méfie aussi, peut-être un peu moins, parce qu'il sait qu'elle est bonne mère, qu'elle défendra son fils, mais autour de lui, il se rend compte que tout le monde ne rêve qu'à une chose, c'est imposer la paix avec l'Espagne. Richelieu a engagé la guerre contre l'Espagne, la guerre ouverte à partir de 1635, et cette guerre est très fortement impopulaire. Et Richelieu est haï à ce moment-là. Donc, sur qui Louis XIII pourrait-il compter pour continuer l'œuvre de Richelieu? Il n'y a personne. Et donc, il demande à Mazarin d'être le parrain de son fils, c'est-à-dire qu'il lui confie à la fois l'enfant et le royaume. Et c'est quelque chose de très important parce qu'il est mourant à ce moment-là. Et donc, Mazarin va être appelé à jouer un rôle de père de substitution auprès du petit Louis XIV. Et d'autre part, ce parrainage l'associe très étroitement à Anne d'Autriche, qui fait le même serment au roi mourant, sauver l'enfant et sauver le royaume. Ils sont donc partenaires politiques bien avant qu'on puisse soupçonner entre eux des liens affectifs.
Alors justement, est-ce que vous pouvez évoquer un petit peu ces liens affectifs? On a évoqué beaucoup de choses.
Et... Oui, alors écoutez, bon, disons crûment, les mazarinades, c'est-à-dire les pamphlets diffusés pendant la Fronde, les ont traînés dans la boue tous les deux. Alors Mazarin est accusé de tous les vices possibles et imaginables, je n'ai pas besoin de vous donner de détails, et Anne d'Autriche est censée partager aussi ses vices. Donc on les traîne vraiment dans la boue de façon absolument odieuse. Alors, il est certain qu'entre Mazarin et Anne d'Autriche s'est créée une relation affective. Et je pense que c'était indispensable parce que, vous savez, les souverains sont très seuls. On a vu d'ailleurs combien Louis XIII a souffert de cette solitude et dans quel drame les favoris auprès de qui il s'est penché ont pu le plonger. Alors, auprès d'Anne d'Autriche, Mazarin pense qu'il faut qu'il joue un rôle personnel. Il lui a fait allégeance comme un chevalier servant au Moyen-Âge faisait allégeance à sa dame. « Je vous servirai en tout ». Et il y a ce type de relation entre eux. Alors, petit à petit, bien, je crois vraiment qu'elle est tombée amoureuse de lui. Mais, en revanche, je pense qu'à cette époque, ça ne conduisait pas directement les intéressés dans un lit. Ça, c'est une illusion propre à nos jours. Et je pense que Mazarin était beaucoup trop prudent pour... Il avait 40 ans passé, elle aussi, c'était l'âge où on remplaçait la galanterie par la dévotion. Et il était beaucoup trop prudent pour se lancer dans une aventure qui risquait de lui coûter très cher à cause de la piété d'Anne d'Autriche, qui il était inutile de lui donner mauvaise conscience. Elle le soutenait beaucoup plus énergiquement si elle était forte de son innocence. Et d'autre part, il y avait également l'enfant. L'enfant vivait en symbiose avec sa mère. Il grandissait et Mazarin se rendait bien compte, ne serait-ce que d'après l'exemple de Louis XIII et de Consigny, que les petits rois adolescents n'aimaient pas beaucoup les amants de leur mère. Donc, à mon avis, il n'y a eu aucune relation charnelle entre eux. D'ailleurs, Anne d'Autriche l'a dit à Madame de Brienne, je l'aime, oui, mais d'un amour dans lequel les sens n'ont point de part. Pourquoi, après tout, refuser cet aveu?
Alors, Simone Berthier, avant d'évoquer les heures noires de la Fronde, nous allons faire un petit arrêt et nous reprendrons le cours au fil des pages.
Nicolas Poussin et Orphée, la collection privée de Goethe, la gravure de Louis-René Berge, les méditations sur la beauté de François Cheng, les tableaux de Bernard Buffet, de Velikovitch, les œuvres de Pierre-Yves Trémoy, mais aussi le monstrueux dans l'art, ou Bosch et les tentations de Saint-Antoine, Canal Académie vous propose une série d'émissions sur l'art et de réflexions sur la beauté.
Je reçois aujourd'hui Simone Berthier qui vient de publier une magnifique biographie, Mazarin, le maître du jeu, aux éditions de Fallois. Simone Berthier, nous avons évoqué l'arrivée de Mazarin, le rôle qu'il a maintenant auprès d'Anne d'Autriche, et voilà qu'arrive la Fronde. Qu'est-ce qui a déclenché la Fronde ?
Il y a plusieurs raisons. D'abord, les grands seigneurs et les corps intermédiaires avaient très mal supporté les efforts de centralisation imposés par Richelieu et rêvaient du temps illusoire où ils auraient eu beaucoup de poids dans le gouvernement du royaume. Ensuite, il y a la guerre contre l'Espagne, et ça, c'est fondamental. Cette guerre, d'abord, elle a coûté énormément parce qu'elle a imposé le triplement des impôts. vous considérez que ça crée quand c'est même beaucoup. Des mécontentements. Et d'autre part, elle est très impopulaire parce qu'une bonne partie de l'opinion, et en particulier les dévots, y sont hostiles pour des raisons de principe. Cette guerre, elle est menée par la France contre la très catholique Espagne, avec l'aide d'alliés protestants, en particulier les Suédois. Alors, on ne comprend rien à la Fronde si on fait l'impasse des relations extérieures. L'Allemagne est en pleine guerre de 30 ans. Elle a été divisée par la Réforme en deux, en très gros le Nord protestant et le Sud resté catholique. Et l'empereur à Vienne et le pape à Rome rêvent de reconquête. Et Richelieu d'une part et Mazarin d'autre part, très lucides et très réalistes, se sont rendus compte qu'il était chimérique de vouloir reconquérir le terrain, qu'il fallait au contraire prendre acte de la présence des protestants en Europe et simplement figer la situation en évitant une extension. Alors la guerre a pour cause en Allemagne les questions religieuses. Et en France, beaucoup de catholiques, et en particulier toute la nébuleuse qu'on rassemble sous le nom de Parti des Vaux, considèrent comme sacrilège une guerre contre l'Espagne. Le rôle de la France, ce serait au contraire de soutenir sa sœur catholique pour éradiquer le protestantisme d'Allemagne. Voilà. Alors, pendant 5 ans, Mazarin a à peu près la paix. On n'est pas très content, mais on pense quand même que la guerre va finir. Mais la Fronde éclate au moment où, justement, il signe une moitié de paix, si j'ose dire. En 1648, la guerre est gagnée en Allemagne. L'empereur consent à signer la paix, ce sont les fameux traités de Westphalie qui figent les positions dans toute l'Allemagne et l'Europe de l'Est. Alors, on devrait en être très reconnaissant à Mazarin. Seulement, on a appris dès le printemps que les Provinces-Unies, c'est-à-dire les Pays-Bas actuels, avaient signé la paix avec l'Espagne et se retiraient de notre alliance. Oui. Et donc, l'Espagne, loin de signer la paix, reste au contraire dans le conflit et la guerre continue avec elle. Alors, ce qu'on ne pardonne pas à Mazarin, c'est de ne pas avoir fait la paix complète, la paix générale. Et on le soupçonne de prolonger la guerre avec l'Espagne pour se maintenir au pouvoir et se rendre indispensable, et accessoirement pour faire des bénéfices sur les fournitures militaires. C'est pas faux, effectivement, il prélevait quelques pourcentages sur les fournitures en question. Donc, la Fronde éclate en 1648. Elle a commencé par le Parlement, c'est-à-dire les magistrats qui sont chargés d'enregistrer les édits. Et elle porte d'abord sur des questions financières, mais en même temps sur des questions de droit public. Le Parlement exige quelque chose comme l'habeas corpus anglais et surtout, il paralyse complètement le gouvernement. Pour l'obliger Mazarin à signer la paix avec l'Espagne, on lui coupe les crédits.
Oui.
Voilà. Donc la Fronde dure 5 ans. Je ne vais pas vous entrer dans le détail de la Fronde, qui est un invraisemblable sac de nœuds. Moi, je m'y retrouve à peu près grâce à de longues années de travail. Mais disons que Mazarin a risqué très gros, qu'il a été contre... Il y avait deux partis. Les princes, les grands seigneurs se sont engagés dans la brèche.
Oui.
Et il y avait deux partis, finalement, en gros, disons très gros, le parti du Parlement et le parti des princes.
Des princes, oui.
On les appelait les deux Frondes, la vieille Fronde et la Fronde des princes. Tant que les deux ont été divisés, Mazarin a pu tenir. Le jour où les deux parties se sont unies, alliées, alors Mazarin était obligé de quitter la France et on a bien cru qu'il ne reviendrait jamais.
Oui, il s'est exilé 2 fois.
Ah oui, mais ne confondez pas les 2 exils. Le premier est contraint et forcé. Il a filé de nuit, précipitamment. Et il a erré pendant 1 mois avant de trouver refuge en Allemagne auprès de l'archevêque de Cologne. Bon. Il est revenu parce que la reine, en son absence, a réussi à diviser les alliés qui, au fond, n'avaient rien de commun entre eux. Elle a fait proclamer la majorité du petit roi à 13 ans et Condé s'est enfui de Paris. Donc, la partie était en gros gagnée. Alors ensuite, évidemment, il a fallu faire face à la révolte de Condé dans les provinces. Là encore, je passe sur les péripéties. Condé a réussi à s'emparer de Paris, à y créer la terreur, à se faire haïr d'ailleurs de tous les Parisiens. Et là, il y a un second exil, mais celui-ci était diplomatique, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que puisque les princes refusaient de se soumettre tant que Mazarin serait au pouvoir, eh bien, il a dit « je m'en vais ». Donc il est parti, il a fait un petit tour dans les provinces. Et ensuite, une fois le roi rentré dans Paris et acclamé par son peuple, eh bien, il a pu rentrer triomphalement. Et Condé, le grand vaincu de cette seconde partie de la Fronde, s'est réfugié auprès des Espagnols. Il est devenu un général à la tête des armées adverses.
Ouais.
Et quelles étaient les relations du petit roi avec Mazarin ?
Alors, les relations du petit roi avec Mazarin ont été excellentes. D'abord, jusqu'à 7 ans, si vous voulez, il ne s'est pas occupé de lui. Très peu. Et le fidèle valet de chambre Laporte, amoureux, transi d'Anne d'Autriche et membre du parti des Vaux, instillait dans l'esprit du petit garçon la haine du grand turc.
Oui.
Bon. Mais ça n'a pas duré longtemps. Et ensuite, après la Fronde, Mazarin a pris en main son éducation. Et il a fait son éducation militaire en l'emmenant dans des sièges, évidemment, en danger, mais qui permettait d'une part de lui donner une certaine expérience et d'autre part de le faire admirer par les troupes. Et finalement, ça a beaucoup joué dans la dévalorisation de l'image de Condé, parce que pour la jeune noblesse, le modèle à imiter, c'était ce roi adolescent qui était courageux et en même temps très aimable. Il avait toutes les vertus de Condé sans en avoir la brutalité, si vous voulez. Et puis, il a pris surtout en main son éducation politique. Alors, toujours, Mazarin n'est pas un théoricien. Il ne l'a pas instruit par les livres, il l'a instruit en lui présentant des cas concrets, en lui exposant les différentes solutions et en l'amenant à déceler quelle était la meilleure. Et plus tard, alors, au moment du drame à Marie-Mancini, j'anticipe peut-être.
Oui. Non, allez-y.
J'anticipe, mais ça fait partie de l'éducation. Au moment où Mazarin avait gagné sur tous les tableaux, où il avait gagné la guerre contre l'Espagne, où tout allait merveilleusement bien, il avait conclu le mariage de Louis XIV avec l'infante Marie-Thérèse, oui. Eh bien, voilà-t-il pas que Louis XIV sait prendre Marie Mancini et prétend l'épouser. Alors, on a soupçonné Mazarin d'avoir poussé à la roue pour faire de sa nièce une reine. C'est parfaitement faux, d'autant qu'il n'aurait pas eu beaucoup de satisfaction avec la jeune Marie, qui était très indocile. Mais il y a à ce moment-là des lettres de direction envoyées à Louis XIV qui sont absolument remarquables. Dieu a établi les rois pour veiller au bien, à la sécurité et au repos de leurs sujets, et non pour sacrifier ce bien-là à leur passion particulière. Et il y en a sur ce thème tant que vous voulez. C'est remarquable. Et alors, tout à fait à la fin, Mazarin, très malade, bon, était d'une docilité extraordinaire à l'égard de son parrain. Et il a tenté de recueillir jusqu'à la dernière minute tous les enseignements que Mazarin pouvait lui donner. Et il l'a laissé gouverner jusqu'au bout. Il était marié, il avait 22 ans, et il n'a pas retiré le pouvoir à Mazarin. Il a attendu sa mort pour dire, eh bien, maintenant c'est moi qui commande, il n'y aura plus de Premier ministre.
Alors, je voudrais que vous évoquiez une autre facette de Mazarin, parce que nous sommes ici à l'Institut, et l'Institut, c'était avant le Collège des Quatre Nations. Alors, il y a le côté Mazarin bâtisseur et collectionneur. Est-ce que vous pouvez déjà évoquer ce Collège des Quatre Nations? Parce qu'il ne l'a pas connu.
Et non, il ne l'a pas connu. Alors, c'était un collectionneur extraordinaire. Il avait réuni, dès avant la Fronde, 6000 ouvrages. Mais pas des livres de lecture, hein, des ouvrages savants. Il y avait même un volume chinois, le premier arrivé en France. Et il avait ouvert sa bibliothèque à tous les chercheurs qui désiraient en profiter. Et d'autre part, il avait fait du Palais Mazarin, qui est l'actuelle Bibliothèque nationale Richelieu, une vitrine pour exposer les tableaux, en particulier des enfin, les merveilles de tous les arts. Bon, il les collectionnait aussi par plaisir, il y a les deux, il en jouissait. Mais ça faisait partie, si vous voulez, de ses fonctions de représentation en tant que Premier ministre. Alors, il a voulu, par testament, faire une fondation. Cette fondation, c'était le Collège des Quatre Nations. Elle était destinée à accueillir, je crois que c'est 60 étudiants, appartenant aux quatre nations. On appelait nations les provinces, enfin les régions, oui, si vous voulez. Et il s'agissait des quatre provinces rattachées à la France par le traité des Pyrénées, c'est-à-dire l'Artois, le Roussillon, l'Alsace, et la quatrième, c'est Pignerolles. C'est pas une province, c'est quand même une nation. Voilà. Il n'a pas pu voir, naturellement, la construction de l'édifice, mais il l'avait suffisamment bien doté pour qu'on construisît, après sa mort, le bâtiment que vous connaissez maintenant et qui abrite l'Académie française.
Et qui abrite aussi la merveilleuse bibliothèque.
Alors, la bibliothèque Mazarine. Les livres ont été vendus à l'encan. Mazarin a réussi à en récupérer pas mal une fois revenu au pouvoir. Et il en a fait don au roi. Et c'est la bibliothèque Mazarine qui a recueilli le fond de sa collection.
Et où est mort Mazarin ?
Il est mort à Vincennes. Alors, il était très malade. Ses dernières années ont été un martyr, en particulier les négociations du traité des Pyrénées qui ont eu lieu à Saint-Jean-de-Luz.
L'ont
beaucoup éprouvé. Il avait la goutte, il avait aussi la pierre, c'est-à-dire des coliques néphrétiques. Et mal soigné, ces deux maladies ont entraîné des quantités de troubles. Donc, il n'en pouvait plus. Il est rentré à Paris à bout de force. Il s'est réfugié à Vincennes, où l'air était meilleur. Il avait d'ailleurs fait rebâtir complètement le château de Vincennes. Oui. Usage du roi et de la reine et à son usage. Il faut dire qu'il y avait aussi des murs pour protéger la famille royale en cas de trouble, n'est-ce pas ? Les souvenirs de la Fronde étaient là. C'est à Vincennes qu'il est mort, pleuré par Louis XIV et par Anne d'Autriche, et il a eu droit à, j'ose pas dire des funérailles nationales, mais des funérailles royales, si vous voulez, dans la mesure où on l'a traité, en effet, comme s'il avait été un souverain à part entière.
Merci Simone Berthière. Je rappelle que vous venez de publier « Mazarin, le maître du jeu » aux éditions de Fallois.
Et merci à vous.
Merci beaucoup.